On y mettait de l'entrain, on voyageait première classe au rythme de leur chagrin. Le lendemain des folies, on s'est toujours retrouvés au rendez-vous de la nuit, quand le soir allait tomber, au cabaret nostalgie, petite fleur allumée, au micro l'oiseau de nuit, personne n'a oublié. Les souvenirs ont la paix, car les filles horizontales n'ont pas laissé de regrets. On a reçu la lumière en quantité presque égale. Les filles au fond de nos verres nous lancent encore des bye bye. De l'ennui.
Tous les mardis, c'est Jam Sessions à la Place à Côté, animé par Martin Perriard et avec Rock Empire. Batterie, clavier et amplificateur fournis. Apportez vos guitares, basses et bâtons de batterie. La soirée débute avec Rock Empire de 21h à 21h30, puis des sessions de 20 minutes. Premier arrivé, premier à monter sur scène. Au Jam Sessions, les mardis à la Place à Côté, rue Papineau à Montréal. Visitez laplaceacôté.com pour tout plein de bons spectacles.
Radio Centre-Ville. FM 102,3. La radio citoyenne.
Cette introduction de l'international nous amène à l'émission Antenne Libre d'aujourd'hui. Nous recevons Réa Jodoin, membre de la gauche communiste, un courant dont on parle quand même assez peu. Alors, bonjour Réa.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est de la gauche communiste en commençant par parler de ton évolution politique personnelle?
Bon, mon évolution politique personnelle, ça peut être très long, étant donné l'âge que j'ai. Là, j'ai 35 ans de militantisme. Mais ce qui m'a amené à militer, premièrement, c'était la guerre du Vietnam. Bien entendu, à l'époque, je ne savais pas que c'était un conflit interimpérialiste, c'est-à-dire les États-Unis contre l'impérialisme soviétique. Et on voit ce que ça a donné aujourd'hui. C'est le capitaliste d'État qui domine au Vietnam. Mais pour faire une affaire courte, là, j'ai milité dans différents groupes maoïstes. Et finalement, dans le groupe En lutte, groupe maoïste stalinien, qui s'est dissous en 82. Et pendant ce temps-là, j'étais un peu à la recherche d'un mouvement. Et le groupe internationaliste ouvrier m'a fait connaître la gauche communiste. Qu'est-ce que c'est la gauche communiste? On peut dire que ça remonte au début du siècle, en 1920, surtout en Italie, dans les années 20, quand Bordiga s'est aperçu qu'il y avait une dégénérescence, des erreurs qui étaient prises par le parti communiste russe, le parti bolchevique, entre autres mettre de l'avant un front uni dans différents pays occidentaux, un front uni avec la bourgeoisie, des fronts populaires, ainsi de suite. La gauche communiste aussi, d'autres, les Hollandais, les Français, les Allemands, se sont rendus compte que les syndicats n'étaient plus des instruments de défense des travailleurs, mais des instruments de collaboration, même qui sabotaient les luttes, qui entraînaient les travailleurs, la classe ouvrière, dans les guerres, comme la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est un aspect aussi de la gauche communiste qui m'a intéressé aussi. Et le type de parti communiste qu'ils mettent de l'avant, qui n'existe pas encore, qu'il faut créer, qui est un parti qui doit être anti-stalinien. Il faut complètement éliminer tout ce qu'il y a de stalinien dans les mouvements communistes. C'est très brièvement, là,
parti de la gauche communiste. Tout à fait. Là, tu nous parlais des différences dans ton évolution, mais est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui est constant, en fait? Il y a sûrement des choses qui sont constantes, qui sont restées avec le temps.
Oui. Ce qui est resté avec le temps, c'est que pour changer la société, moi, j'ai toujours cru qu'il y a des classes sociales. Alors, il faut se baser sur une classe sociale, la classe sociale qui est la plus capable de changer la société de par sa place dans la société, de par sa force, de par son nombre, c'est la classe ouvrière. Fait que j'ai toujours été du côté de la classe ouvrière, même si c'était dans des organisations qui la considéraient de façon secondaire. C'est la classe ouvrière d'une part. D'autre part, je n'ai jamais cru au parlementarisme. Le parlementarisme, la bourgeoisie a deux façons de maintenir son système capitaliste. La façon le plus économique pour elle, c'est le parlementarisme, la démocratie bourgeoise, et puis il y a la façon répressive. Mais quand elle a le choix, elle essaye surtout d'avoir la façon bourgeoise, c'est-à-dire la démocratie, c'est la meilleure façon d'abrutir et d'abrutir aussi une bonne partie de la classe ouvrière par ses différents partis politiques. Fait que j'ai jamais cru à ça non plus.
OK. Et pourquoi, pour toi, il faut construire un parti? Parce que des gens qui diraient qu'un parti, c'est autoritaire, centraliste, mais pourquoi ça reste une perspective importante pour toi?
Bon, quand on dit il faut s'organiser, sinon on se fait organiser, il y a ça. Je regarde ceux qui sont contre les partis, en particulier les anarchistes, c'est des leaders indirects, plus ou moins élus, qui dirigent, et c'est des fois beaucoup plus autoritaire qu'un parti. Un parti, c'est qu'on pourrait dire les dirigeants les plus conscients d'une classe qui dirigent, ceux qui sont prêts à aller le plus de l'avant, les plus en avant. Fait que ces gens-là, il faut se regrouper dans une organisation. Et un parti aussi, c'est qui fait le bilan des erreurs passées et qui met les mots d'action pour le présent. Alors, c'est un regroupement des gens les plus conscients, mais qui font aussi partie de la classe. Ils ne doivent pas être en dehors de la classe.
OK. Et puis, avant de continuer, on va y aller en musique avec « Faut plus de gouvernement », justement une chanson anti-parlementariste.
Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
OK, c'était un extrait du Triomphe de l'anarchie qui n'a rien à voir avec Faut plus de gouvernement. On écoutera Faut plus de gouvernement bientôt. Alors, on est de retour avec Réal. Tu voulais continuer à nous parler du parti?
Oui, il y a quelque chose d'important aussi qui différencie le parti à construire, le parti révolutionnaire de la classe ouvrière et internationaliste. C'est la lutte qu'on pourrait appeler contre, par le passé, c'était contre le conseillisme, et aujourd'hui, on pourrait dire contre l'économiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup de militants qui sont d'accord pour les revendications strictement économiques de la classe ouvrière, appuyer leur grève, des augmentations de salaire, mais la politique, on laisse ça aux spécialistes, on laisse ça aux syndicalistes, on laisse ça aux gauchistes. Alors, on ne veut pas que la classe ouvrière fasse sa propre politique, ou quand on veut qu'elle la fasse, elle s'embarque dans la politicaillerie, dans les pieux politiciens, dans le changement de parti, dans les réformes électorales pour les proportionnels, ou comme au Mexique, une réforme électorale. Fait que là, un parti communiste, un vrai parti révolutionnaire, il applique ce que disait Karl Marx, l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et non pas l'œuvre des politiciens, si à gauche peuvent-ils l'être, gauche capitaliste entre nous.
OK. Et pourquoi le syndicalisme, c'est pas quelque chose de viable aujourd'hui d'un point de vue révolutionnaire?
Bon. Disons que le syndicalisme, il y a 100 ans, ça pouvait être une bonne chose. Il s'opposait aux capitalistes, il disait, il y avait des syndicats qui le faisaient, il n'était pas bureaucratisé, les gens n'étaient pas obligés d'être membres. Alors aujourd'hui, surtout depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme est dans une forme de décadence. Il ne peut plus donner plus que ce qu'il a donné avant 1914. Alors les bourgeois, je dirais, les plus conscients, se sont rendus compte que plutôt que de laisser des grèves illégales en dehors de cadre, les syndicats existaient, il a reconnu les syndicats. En Amérique du Nord, les syndicats sont reconnus par la formule Rennes. C'est-à-dire que tu es dans une entreprise, tout le monde est obligé d'être syndiqué, tu as le droit d'être en dehors du syndicat, mais tu payes des cotisations. Et le hic, le syndicat est bon pour la bourgeoisie, pour les boss, c'est que les syndicats, ils signent une convention collective qui, il y a quelques années, durait 2 ans, mais en même temps, c'est rendu 2, 3, 4, 5, même 7 ans. Fait que là, les travailleurs, sous la direction des boss syndicaux, du syndicat, sont obligés d'être pacifique avec leur boss. Leur boss continue à faire du profit, il continue à les exploiter, il peut fermer son entreprise quand il veut, mais le syndicat est là pour dire qu'il faut respecter la convention collective. Donc, pas de grève illégale, pas de soutien à d'autres grévistes en grève, pas du tout. Fait que les syndicats sont là, même plus pour nous défendre économiquement, ils sont là pour saboter nos luttes. Ils vont même pas au niveau politique révolutionnaire, au niveau politique, toujours depuis des partis surtout nationalistes. Mais ils sabotent les luttes. On l'a vu, la dernière lutte du Front commun, où tous les syndicats ont agi de façon corporatiste, complètement coupée. Ils ont appliqué très bien la loi 31 des hôpitaux qui disait « Faites du maraudage, battez-vous entre eux. » Ils n'ont pas boycotté cette loi-là. Fait qu'aujourd'hui, si on veut se dire pour le socialiste, si on veut dire pour la classe ouvrière, il faut sortir des syndicats. Il faut même aller jusqu'à la destruction des syndicats qui sont là pour détruire les luttes de la classe ouvrière. La saboter.
Donc, c'est un service d'encadrement un peu au service de la bourgeoisie.
Encadrement, et même ça va jusqu'à des manifestations. Un encadrement où des fois on voit des manifs qui sont entre les manifestants et les policiers, bien des fois pour protéger les policiers. C'est ça. Encadrement à tous les niveaux, idéologique, policier, puis dans le quotidien, pour pas qu'on sorte de notre lutte économique.
Je sais pas si ça tente, mais d'évoquer la situation que tu me racontais juste avant d'entrer à l'émission sur le fait que tu avais diffusé un tract. Je ne sais pas si ça tente d'en parler.
Oui, oui.
Parce que je trouve que c'est vraiment symptomatique de justement du syndicalisme aujourd'hui.
Lors de la dernière lutte du Front commun, il y a des groupes d'enseignants que j'appelle les pseudo-dissidents, avec l'Alliance des professeurs, syndicats de l'Ouest de Montréal, ces 9 syndicats, qui ont critiqué la CSQ pour sa lutte. Pas pour sa lutte. Pour ses revendications, pour ses concertations. Moi, je vois plus ça comme une lutte entre dirigeants syndicaux pour avoir plus de cotisations parce qu'ils n'ont jamais remis en cause le corporatisme de la CEQ, la CSQ. Et moi, j'ai publié un tract qui dénonçait ça, qui disait les pseudo-dissidents, est-ce qu'ils veulent vraiment changer la lutte syndicale? Alors, c'était au Palais des Congrès, à une assemblée où on devait prendre une décision par rapport à cette pseudo-dissidence-là. J'ai déjà passé souvent des tracts au Palais des Congrès sans aucun problème. Là, le service d'ordre du Palais des Congrès est venu m'arrêter, puis ils m'ont dit qu'il y avait un directeur de l'Alliance qui avait dit que je n'avais pas d'affaire à passer ça. Or, je l'ai fait par le passé. Et puis là, un des vice-présidents de l'Alliance comme je dirais, de façon très paternaliste, a permis que durant le début de l'Assemblée, j'en passe. Mais là, il était trop tard. La majorité des gens était passée. Fait que leur pseudo-dissidence pour moi, ça ne change rien. Puis on le voit dans les faits, ils sont en train de négocier avec la commission scolaire. Ils maintiennent toujours en place des comités de concertation avec la commission scolaire. Ils en maintiennent au niveau local. Ça s'appelle les comités de participation des enseignants avec les politiques pédagogiques de l'école. Ça, c'est de la concertation des enseignants avec les directions d'école. Ils ne sont pas différents du tout de la CSQ qu'ils font au niveau provincial. Ils font la commission scolaire, ils font école par école.
Là-dessus, tu as publié une brochure sur le syndicalisme qui s'appelle du syndicalisme critique à la critique du syndicalisme. On la retrouve à la librairie L'Insoumise. On la retrouve où aussi?
À la librairie Zone Libre.
OK. Okay. Ben, parce que si les gens ils veulent en savoir plus justement sur tes positions, parce que bon, il y a bien des gens qui critiquent le syndicalisme, mais toi, tu en as fait partie pendant très longtemps quand même. Tu parles de tes 30 dernières années, donc ça fait au moins 30 ans et peut-être même plus. Où, c'est ça, finalement, tu te rends compte de ce que tu nous racontes aujourd'hui?
Et pendant 30 ans, c'est ça, j'ai été à des congrès, j'ai été délégué, ainsi de suite. Et pendant ces années-là aussi, parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas les syndicats qui sont pourris, qui sont des institutions bourgeoises, c'est les dirigeants qu'il faut changer. Mais j'en ai fait changer des dirigeants syndicaux. On a mis des trotskistes, il y a eu des maoïstes à la tête. Ça n'a rien changé. Il y a des gauchistes qui ont pris la tête. Ils étaient pris dans un cadre légal, puis ils nous faisaient respecter la loi, puis ils dénonçaient des gestes illégaux, ainsi de suite. Fait que c'est pas en changeant les dirigeants syndicaux que ça va régler le problème. C'est en que les travailleurs doivent sortir des syndicats, constituer leur propre comité avec des délégués élus et révocables en tout temps. Pas des gens qui sont élus pour 10-15 ans. Il y a des dirigeants syndicaux qui sont à tête des syndicats aussi longtemps que des évêques ou des cardinaux.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs, il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois donc plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Floc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Alors, on est de retour sur Antenne Libre avec Réal Jodoin, qui nous parle de syndicalisme. Bon, ceux qui critiquent le syndicalisme corporatiste et qui veulent soit affirmer le syndicalisme de combat, comme le Réseau de solidarité des travailleurs et travailleuses, ou l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, ou d'autres perspectives de syndicalisme révolutionnaire, plus par exemple en milieu de travail, qu'est-ce que tu leur dis?
Ou ceux qui prennent le syndicalisme révolutionnaire aussi. D'une part, ça va entraîner une marginalisation de ces travailleurs-là. Et d'autre part, surtout dans le milieu ouvrier, pour le milieu étudiant, ils sont amenés à signer qu'ils ne veulent pas une convention collective. Puis comme je disais tantôt, donc c'est signer un pacte pendant des années qu'on fait la paix sociale. Aussi, pour être reconnu par le patron, pour être reconnu par l'État, on voit l'AC, par exemple, qui prônait des réformes dans le domaine des subventions, ainsi de suite, des prêts et bourses. Alors, pour être reconnus, pour être comme des partenaires crédibles vis-à-vis de la bourgeoisie, des institutions, ils sont obligés d'amener des solutions réformistes aussi. Et ils remettent jamais en cause le travail salarié.
OK. Et en parlant de réformisme, on pourrait parler de la gauche actuelle qui va autant de Québec solidaire au PCRCO, en passant par les anarchistes. C'est quoi ton analyse de la gauche actuelle?
La gauche, on pourrait dire la gauche capitaliste, ou si on prend à droite, le Québec solidaire, le PQ est de plus en plus discrédité dans les rangs de la classe ouvrière. Alors, ils ont besoin d'une relève. Le Québec solidaire va être cette relève-là. Et comme je disais tantôt, quand ils ne crachent pas carrément sur la classe ouvrière, ils en ont quand même besoin pour faire leur vote. Fait qu'en amenant les travailleurs dans le domaine électoral, et là, ça broille bien gros pour le réformiste, le Québec solidaire, c'est des sociodémocrates. Par le passé, les sociodémocrates, ils ont appuyé les guerres. Ils ont fait en Allemagne assassiner des révolutionnaires comme Rosa Luxembourg. Ça, c'est du côté des sociodémocrates. Du côté des anarchistes, il y a les maoïstes, pour parler en gros de la gauche. Les maoïstes, on voit au Népal présentement, qu'est-ce qu'ils font après avoir fait une guérilla en se basant sur la paysannerie et non pas sur la classe ouvrière, parce qu'il y en a une au Népal, c'est d'amener une nouvelle constitution, renverser le roi, mais changer le système, abolir le système capitaliste, non. C'est se maintenir toujours dans le cadre du stalinisme, du socialisme d'un seul pays. Socialiste, quand on entend socialiste d'un seul pays, ça veut dire le capitaliste d'État. Ben, c'est ça aussi pour une bonne partie de la gauche qui appelle socialiste, que ce soit à Cuba, en Corée du Nord, en Chine, sous temps de Mao Tse-tung, c'est du capitaliste d'État. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi, si on peut appeler ça une autre gauche, les anarchistes qui ont toutes sortes de tendances, qui vont du lifestyle, des espèces de moines qui voudraient vivre en dehors du système capitaliste, mais ils ne se promènent pas tout nu, ces gens-là, donc ils sont inconséquents. Et d'autres, le trouble qui était peut-être un des moins pires, qui est disparu, ainsi de suite, qui, on se demande si des fois ils reconnaissent l'existence de la classe ouvrière ou pas. Fait que s'ils ne la connaissent pas, c'est sûr qu'ils ne se basent pas sur une classe révolutionnaire pour changer le système. Ou d'autres qui vont la reconnaître, mais en disant qu'il faut abolir l'État capitaliste, ce qui va. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut créer des communes partout sur la Terre? Parce que la lutte doit se mener à l'échelle internationale. Et tous ces regroupements-là n'ont pas de liens véritablement politiques internationaux. Pas juste des liens politiques, il faut avoir des liens organisationnels, il faut faire des mouvements, des gestes au niveau international. Alors, la gauche communiste, pas ça, elle. On retombe dans le nationalisme dans bien de ces organisations-là, que ce soit le Québec solidaire, les maoïstes, c'est le nationaliste québécois ou nationaliste canadien qui revient au socialisme d'un seul pays ou la social-démocratie d'un seul pays.
Oui, OK. Mais tu sais qu'il y a le Congrès révolutionnaire canadien qui s'en vient, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, c'est un peu bizarre de recréer une deuxième fondation de leur parti, là. On enlève le comité d'organisation pour ça. Les maoïstes se consolident en oubliant, bien entendu, leurs erreurs. Ils donnent des notes. C'est un des drôles de marxistes qui donnent des notes à Staline de 50 à 70%, parce que Mao faisait ça, fait qu'ils font un petit singe de Mao. Là. Ils sont rendus à donner 50% à Staline. Dans 3 ans, ils vont peut-être le mettre à 30%. Les maoïstes, c'est pas un courant révolutionnaire du tout. C'est un courant nationaliste. On le voit au Pérou, on le voit au Népal. C'est un courant... Dans ces mouvements-là, c'est sûr qu'il y a des travailleurs, il y a des ouvriers, mais ils ne reconnaissent pas le rôle dirigeant de la classe ouvrière. Ils mettent de l'avant des fronts unis. On a l'exemple du Népal. On a vu Mao Tse-tung, comment il a mis des fronts unis avec le Chiang Kai-shek, comment il essayait de jouer l'impérialiste américain contre l'impérialiste soviétique pour promouvoir l'impérialiste chinois en sacrifiant la paysannerie. Il faisait travailler la paysannerie à la corde pour produire la nourriture. Cette nourriture-là était exportée en URSS, entre autres, pour avoir l'armement militaire. Les maoïstes, bien entendu, ne parlent pas de ça du tout. C'est toujours l'adoration de Mao Tse-tung. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, ils vont donner une note de 70%, par exemple.
OK. Et on retourne en musique, puis on revient.
Rue Gay-Lussac, les rebelles, non que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons à centaines.
par milliers, des canons, des fusils, par centaines et par milliers.
Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez, la règle en paraît nouvelle, quel jeu singulier.
Des canons, par centaines, des fusils, par milliers, des canons, des fusils, par centaines et par milliers.
La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Des canons, par centaines, des fusils, par milliers. Des canons, des fusils, par centaines et par milliers.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Des canons, par centaines.
Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons, par centaines, des fusils, par milliers. Des canons, des fusils, par centaines et par milliers.
Mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers, mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner.
Des canons, par centaines.
J'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers.
Des canons, par centaines, des fusils, par milliers. Des canons, des fusils, par centaines.
Alors, de retour sur Antenne Libre avec Réal Jodoin. Donc, Réal, en fait, hier, il y avait une manifestation en appui à ce qui se passe à Waraka. Vous avez publié un track là-dessus. En fait, c'est ce qui m'a donné, entre autres, l'envie de vous inviter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler... En fait, on peut parler peut-être plus largement encore de la situation internationale, parce que vous avez aussi récemment publié un track sur l'Afghanistan, l'Irak. Grosso modo, sur ce qui se passe, parce que c'est des situations aussi qui amènent à l'insurrection là, en Irak, à Waraka, quel est votre point de vue sur largement sur ces situations-là qui se passent actuellement?
La situation, ce qui se passe, ce qui s'est passé cet été au Liban, ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Afghanistan, c'est que le capitalisme est en crise présentement et le capitalisme règle ses crises par des guerres mondiales. On voit des blocs en train de se constituer. D'un côté, il y a le bloc impérialiste américain dans lequel il y a le Canada, les États-Unis, le Mexique, Israël, et d'autre côté, un bloc où il y a des changements, mais le bloc, on pourrait dire, de la France, de l'Allemagne, qui a des appuis. À un moment donné, l'Espagne a passé du côté du bloc européen. Tous ces pays-là mettent leur pied en avant. En Irak, par exemple, ça a été une défaite lors de l'attaque du bloc européen, puisque les Européens, la France, l'Allemagne, avaient beaucoup d'investissements pétroliers qu'ils ont perdus par l'attaque des États-Unis sur l'Irak. Il y a aussi... ce qui montre une décadence, une crise du capitalisme. Saddam Hussein a fait quelque chose d'excessivement grave pour les États-Unis, c'est qu'il commençait à commercer en euros. Or, les États-Unis ne peuvent maintenir leur système parce que le dollar américain, c'est la monnaie qui est utilisée dans la majorité des pays du monde. Et puis, si les pays capitalistes qui exportent le pétrole, les pays européens commencent, mais en Europe, c'est déjà fait, à se servir de l'euro, dans très peu de temps, ça va être une crise économique épouvantable. Alors, tout pays qui commence à commercer, surtout un pays qui vend son pétrole en euros, c'est très, très grave, ça, pour les États-Unis. C'était le cas en Irak, entre autres. Il y a l'Afghanistan, où, encore là, il y a les richesses naturelles. En Afghanistan, il y avait possibilité de faire passer un pipeline. Les talibans ont refusé ça. Mais les États-Unis, dans leur conquête, dans leur concurrence, je dirais, contre le bloc européen, veulent contrôler les richesses naturelles. Alors, toutes les guerres sont centrées indirectement par ça. Qui finance les terroristes en Irak? Il y a l'Iran, il y a des puissances impérialistes, des moyens, des petits impérialistes comme l'Iran, ainsi de suite. C'est pas... j'appuie pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'insurgés révolutionnaires en Iran, pas en Iran, en Irak, en Afghanistan. C'est une fraction, une bourgeoisie contre une autre bourgeoisie, une petite contre une plus grosse. Et si on revient à Oaxaca, qui la bourgeoisie, pour conditionner les travailleurs à une guerre mondiale, y applique des lois. L'antiterroriste, c'est une excuse pour écraser la classe ouvrière. Ce qui s'est passé au Mexique, il y a des enseignants qui ont fait la grève ce printemps pour leurs conditions de travail, pour des meilleurs salaires, meilleures conditions en éducation. Et cette lutte-là a été récupérée par les syndicalistes. Les syndicalistes du Mexique sont pas mieux, sont aussi pourris que ceux du Canada. D'ailleurs, il y a un dirigeant syndicaliste à un moment donné qui était tellement pourri qu'il a fallu qu'on le gouvernement l'a essayé de le mettre de côté, là, je ne sais pas son nom. Mais en tout cas, ce qui s'est passé pour ça, les dirigeants syndicalistes, avec les gauchistes, ont enlevé la lutte aux travailleurs pour la transformer encore sur le terrain électoral ou du réformisme parlementaire. Par exemple, on demande la destitution du gouverneur, comme du gouverneur de l'État d'Oaxaca, comme si ce gouverneur-là, c'était lui qui était le seul responsable. La répression qui s'est faite, comme la répression qui s'est faite vis-à-vis des paysans dans le Tlento, c'est tous les partis politiques qui ont réprimé. Et les syndicalistes avec les gauchistes, on se sert des travailleurs, de l'enseignement d'autres travailleurs, comme des politiciens à des fins électorales pour réformer le système électoral mexicain. Et plus le Mexique se démocratise, en guillemets, on remarque qu'il y a de plus en plus de chômage, il y a de plus en plus de pauvreté. Et encore là, il y a ce qui se fait au Mexique, il faudrait que ça cesse, c'est le planton. C'est que les gauchistes, les syndicalistes, demandent à des travailleurs d'être dans des cul-de-sac, dans des rues, pendant des jours, hommes, femmes, enfants, sous la pluie, à gueuler pour des projets réformistes en attendant les forces policières. C'est pas du tout des actions que nous, on va mettre de l'avant, pas en tout.
Justement, on parlait de mettre de l'avant. Qu'est-ce que vous mettriez de l'avant?
Bon, certainement pas le nationaliste. Je reviens encore sur Oaxaca, où quand j'ai vu hier soir dans le film qu'on mettait des drapeaux du Mexique sur les cadavres des travailleurs assassinés. Je pense pas que les travailleurs sont morts pour le drapeau mexicain. Fait que c'est pas le nationaliste. Je disais tantôt, il faut bien entendu construire un parti, mais comment construire un parti? C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. C'est là, on s'en va vers une guerre mondiale. Et l'idée, ce qu'on doit diffuser comme idée, c'est qu'on a deux choix. Vous avez cette guerre mondiale-là. C'est soit qu'on va lutter pour la démocratie bourgeoise, comme ceux qui veulent réformer le système parlementaire, ou la répression. Les gauchistes, les dirigeants syndicaux nous mettent devant ces deux choix-là, plus de démocratie ou sinon c'est la répression. C'est pas ça le choix du tout qu'on doit avoir. La classe ouvrière, comme disait Karl Marx, je le mentionnais déjà, c'est les travailleurs qui doivent s'émanciper eux-mêmes. Donc, la classe ouvrière doit contrôler ses propres luttes, doit mettre de l'avant ses idées politiques pour renverser le système capitaliste à l'échelle mondiale. C'est ça. À l'APO hier, j'entendais un des représentants qui a dit vers la toute fin, oui, l'APO est anticapitaliste. C'est la première fois que j'entends dire ça. Faut le dénoncer, pas juste en parole, mais s'organiser pour abolir le système capitaliste, parce que là, on n'a plus le choix. C'est le socialisme ou la barbarie. Il y a la crise économique, mais aussi comment régler les problèmes d'environnement. Les problèmes d'environnement, c'est des solutions qui doivent être à l'échelle mondiale. Ce n'est pas des gouttes d'eau comme Kyoto qui vont régler le problème. Fait que ça aussi, les travailleurs doivent se rendre compte, c'est la classe ouvrière qui doit régler ces problèmes-là.
Puis ceux qui disent que depuis l'État social, l'État-providence, même avant le fordisme, etc., etc., la classe ouvrière s'est intégrée aux structures du capitalisme et qu'on ne peut pas nécessairement attendre qu'elle soit révolutionnaire, qu'est-ce que vous y répondez?
C'est vrai, mais c'est pas vrai. Elle est intégrée de force consciemment par les syndicats, entre autres. Les médias, c'est ceux qui réussissent à abrutir la classe ouvrière. Mais la classe ouvrière doit se conscientiser. Un mouvement révolutionnaire va se faire seulement avec une classe ouvrière consciente. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre des années et des années pour ça. Il faut des organisations révolutionnaires pour le faire. Mais ça se fait. Une révolution, ça arrive pas souvent. Mais ça arrive quand une classe est consciente. Si la classe ouvrière était consciente de sa force aujourd'hui, ça prouverait que le système capitaliste n'est pas si pire que ça. Mais justement, le système capitaliste domine pas juste économiquement, il domine idéologiquement et il y a une lutte aussi au niveau des idées amenées.
OK. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter?
Non. Bien, ce que j'ai à rajouter, c'est que je suis membre d'un petit groupe qui s'appelle les communistes internationalistes de Montréal. S'il y en a qui veulent nous faire des commentaires, vous pouvez écrire sur le... Pour le moment, on n'a pas d'adresse de code postal, mais on a un courriel. Vous pouvez prendre le courriel en note, c'est CIM, le souligné, ICM, A commercial, Yahoo, YHOOO, point...
CA, probablement.
Point... point .com.
Ah, point .com, OK. Bon. Ben, je te remercie beaucoup, Réal, d'être passé aujourd'hui. Je te laisse aller chercher ta voiture avant que, justement, l'État se charge de la ramasser.
Et à ma job de steak, merci.
Ça m'a fait plaisir.
Rescapé du prison choc, je sens que je débloque. Préquez-moi dans ce caveau, à ton lavage de cerveau. Voyez à quoi je suis en fleur, désormais je suis qu'un pantin. On a cassé ma personnalité, ma rébellion des petites violences. On réussit à me mater avec un total isolement. J'ai perdu mon identité et on m'a enterré vivant.
Oh, t'as jeté ta, oh, t'as jeté ta,
plus jamais.
Oh, t'as jeté ta,
plus jamais.
Oh, t'as jeté ta,
plus jamais. Non, non, non.
Un prédateur, indignation, ma première insertion. Mais je n'échappe pas à la condamnation. Le monde entier est ma prison. Avant j'étais libre, j'avais le choix. Du temps où j'étais hors la loi. Mais sachez que ces prisons modèles ne servent qu'à dissimuler les désespérés, les rebelles que ce système a engendré. Elles devront être éliminées, car la colère va gronder.
Otage de l'État,
otage de l'État,
plus jamais.
Otage de l'État,
plus jamais.
Otage de l'État,
plus jamais.
Non,
non, non, non.
Sachez que ces prisons modèles ne servent que dissimuler les désespérés, les rebelles. La société peut assumer ces atroces citadelles. Je veux toutes les dynamiter.
Partage
l'État,
partage
l'État,
plus jamais.
Partage l'État,
plus jamais.
Partage
l'État,
plus jamais.
Alors, vous entendiez « Otage de l'État de banlieue rouge ». La chanson qui avait passé avant, c'était la chanson pour du comité de maintien pour des occupations, des canons par centaines, des fusils par milliers. Pour finir avec les communistes internationalistes, dont Réa Jodoin, on va lire un extrait de la conclusion du tract justement qu'ils ont écrit, dont Réal parlait, Un monde en guerre et guerre de classe, sur l'Afghanistan et l'Irak. Il disait « Prolétaires, pour combattre ces guerres fomentées par les classes dirigeantes, une seule alternative est possible. Opposée à la guerre impérialiste des bourgeoisies nationales, notre propre guerre, celle du prolétariat international, la guerre de classe. » Ouvriers, ouvrières, il faut envisager des grèves contre la guerre dans tous les secteurs de la production. Cela voudrait aussi dire pour nous la confrontation avec les corporations syndicales qui cherchent toujours à nous isoler, usine par usine et pays par pays, dans leur volonté d'être un intermédiaire du système capitaliste. Contre l'effort de guerre nationaliste, il faudra opposer la solidarité ouvrière de par le monde, car il y a plus d'intérêts communs véritables entre le soldat canadien et le travailleur afghan qu'entre le soldat canadien et sa propre bourgeoisie. Une longue lutte se poursuit pour le développement de la conscience de notre classe afin d'en finir une fois pour toutes avec la logique guerrière du capitalisme. Prolétaires, nous devons nous unir en participant à la construction d'un parti prolétarien internationaliste, un parti anti-stalinien. Pour que triomphe la paix à l'échelle mondiale, il faut d'abord gagner la guerre de classe. Socialiste pour barbarie, il n'y a pas d'autre choix. Il était signé des communistes internationalistes, Montréal, 2006. Sur justement la guerre du capitalisme contre les peuples, contre la classe ouvrière, contre le peuple en général, nous allons écouter un extrait, une entrevue réalisée sur une campagne contre la brutalité policière qui a cours en ce moment en Colombie.
Je suis présentement en compagnie de Mauricio Correa, qui est représentant international au Québec de l'Association colombienne des étudiants universitaires. Bonjour Mauricio.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Votre association organise présentement une campagne nationale et internationale contre la brutalité policière. Pouvez-vous nous donner un peu de contexte, à savoir pourquoi est-ce que vous organisez une campagne comme celle-là?
Bon, c'est qu'il faut en premier moment souligner c'est que la Colombie, bon, est en train de vivre une violence qui a monté dans les dernières années sur le gouvernement de Alvaro Man, qui applique une politique militaire à la solution du conflit social et armé qu'il y a en Colombie depuis 50 ans. Donc, la pression du gouvernement, et tous les acteurs sociaux, que ce soit les défenseurs des droits humains, les syndicats, les mouvements étudiants, se voient réprimés. Dans notre cas, l'association étudiante universitaire de lancer cette campagne postérieurement à l'assassinat de 6 étudiants qui ont été tués par l'escadron mobile anti-émeute, qu'on appelle en espagnol ESMADA, escadron mobile antidisturbios. C'est un poulo qu'on connaît ici sous la figure de escadron anti-émeute. C'est ça, il y a eu 6 assassinats lors des manifestations, mais aussi ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a plus de 40 étudiants qui ont été assassinés par les groupes paramilitaires, qui sont des groupes qui agissent en totale impunité et en totale complicité avec des groupes de police, avec des groupes dramatiques au niveau des droits humains. Je peux vous parler aussi de les menacés à mort, sont plus de 30 menacés à mort dans ce moment. On est plus de 25 étudiants exiliés dans les derniers 5 ans, qui ont été exiliés un peu partout à l'étranger. Donc on a décidé de faire un gros appel à la communauté internationale pour mettre pression sur ce gouvernement tyrannique.
OK, puis vous êtes un de ces étudiants-là qui a été menacé par les escadrons anti-émeutes, c'est ça?
Oui, c'est bien ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en 98, même avant du gouvernement actuel, c'est ce qu'on connaît comme le plan Colombie. En 98, ce plan Colombie est lancé, accompagné d'une politique néolibérale très sauvage, comme on connaît un peu partout dans la planète, et ça a provoqué une contestation inévitable de la société civile. Donc, nous, en tant qu'acteur social en Colombie, on a sorti à manifester, on a fait beaucoup de pression, ça c'est années 98-2000, et c'est là où je me vois obligé aussi à quitter en première ma ville, et postérieurement, je me vois obligé à quitter mon pays après que les menaces de mort deviennent plus fortes contre ma vie.
Qu'est-ce que vous faisiez exactement pour que ces escadrons-là vous considèrent comme, je sais pas, dangereux puis fassent ces menaces-là?
Oui, mais je pense que c'est pas différent de ce que fait toute association étudiante un peu partout dans le monde. C'est une association qui considère qu'il faut réivindiquer les droits fondamentaux des étudiants. Donc on réivindique les droits à l'éducation publique et gratuite. Donc aujourd'hui, le gouvernement, avec toutes les politiques néolibérales depuis 1998, est en train de liquider systématiquement les universités publiques. On peut parler aujourd'hui qu'il y a 70% des universités qui font partie du réseau privé et simplement 30% environ des universités qui demeurent publiques. Mais à l'intérieur de ces 30%, il y a plusieurs universités publiques de régions qui sont en train de se faire liquider. donc les étudiants sortent à la rue, les étudiants, notre association des étudiants universitaires convoque à des grèves, convoque à défendre l'éducation, à empêcher cette privatisation. Et la réponse du gouvernement, c'est une réponse tyrannique, c'est une réponse typique d'un gouvernement qui prend des allures de dictature et assassine systématiquement les dirigeants sociaux. Il faut dire qu'en Colombie, il y a par moyenne 150 syndicalistes qui se font assassiner. Si? On est en train de parler de proche de 3 millions de Colombiennes et Colombiennes qui sont déplacés, qui sont obligés à quitter leur territoire et qui sont obligés à s'en aller vers les grandes métropoles pour essayer de sauver leur vie. Donc ce n'est pas une question simplement du mouvement étudiant. Bien sûr, on lance la campagne, mais on est en train de dénoncer la répression systématique que ce gouvernement fait contre les personnes qui travaillent pour les droits sociaux. Ce n'est pas plus grave que ça, c'est réindiquer les droits sociaux fondamentaux de la population.
Okay. Puis cette répression-là, tu le mentionnais au passage tantôt, a été en augmentant ces dernières années.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que Uribe, le gouvernement actuel, le président actuel, il arrive à la présidence avec un discours très militaire, mais en même temps, il part d'un processus de paix avec les groupes paramilitaires. Si? Ces groupes paramilitaires, ce qu'il faut comprendre, que sont des groupes para-étatiques, si on veut dire, c'est-à-dire que sont à favor du gouvernement et qu'utilisent, ou pour utiliser l'expression, font la job, le travail sale de répression pour nettoyer l'image officielle du gouvernement. Sauf que la Organisation des Nations Unies et plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé les liens très clairs qu'il y a entre l'État colombien et le paramilitarisme. Cependant, la communauté internationale appuyait ce supposé processus de paix. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit 3000, et dernièrement vient de sortir un scandale parce que les organisations même gouvernementales, par rapport à la justice, dénoncent l'assassinat de 3500 Colombiens dans les 4 dernières années, lorsque le gouvernement part d'un processus de paix avec le paramilitarisme. Donc, où est le processus de paix? Il n'y a aucun processus de paix, c'est la légalisation de ce qu'on peut connaître au niveau international comme les escadrons de la mort, ¿sí? Les légaliser, légaliser l'argent du narcotrafic parce que le paramilitarisme s'est nourri du narcotrafic. Donc, en même temps qu'on part du processus de paix, les étudiants se font assassiner, les syndicalistes se font assassiner, les défenseurs des droits humains se font assassiner, les oppositeurs politiques se font assassiner. Et donc, c'est ça qu'on trouve délicat, grave, et on est en train d'appeler la communauté internationale pour dire qu'on ne peut pas appuyer un gouvernement qui dit être en un processus de paix et en même temps réprime systématiquement la population.
Étant donné tout cela, vous avez lancé la campagne, justement, contre la brutalité policière. En quoi consiste cette campagne-là? Quelles sont les actions que vous avez prises jusqu'à maintenant?
Pour le moment, au niveau national, c'est-à-dire à l'intérieur de la Colombie, il y a plusieurs manifestations. Et dernièrement, on a eu l'assassinat de Julián Andrés Hurtado le 4 octobre 2006 à l'Université del Valle, qui s'appelle. Cet étudiant était un étudiant représentant des étudiants au Conseil académique. Et après ça, 15 jours plus tard, il y a l'étudiant Trojan de l'Université de Cauca qui s'est fait aussi assassiner. C'est-à-dire qu'en moins de 15 jours, on avait 12 assassinats. Donc nous, on a lancé plus fort cette campagne nationale, mais au niveau international, pour dire que le gouvernement fait la sourde oreille. On a tout utilisé les instances pertinentes à l'intérieur du pays, mais le gouvernement fait la sourde oreille. Donc nous, on lance un appel à toutes les organisations, au mouvement étudiant aussi international, pour avoir la possibilité de dénoncer à l'extérieur de la Colombie ce qui est en train de passer. Dans ce contexte-là, le regroupement autonome des jeunes ici au Québec a décidé de répondre à cet appel et on vient de finir une tournée avec deux représentants du mouvement étudiant colombien. On a passé par Trois-Rivières, par Québec, par Montréal, par Sherbrooke. On a parlé avec l'Association syndicale pour une solidarité étudiante, la CE. On a parlé avec les syndicats, on fait un peu de pression politique, un peu dans toutes les instances. Aujourd'hui même, lorsqu'on se parle, les conseils exécutifs de la UQAM, de l'Université de Québec à Montréal, de la Faculté des sciences humaines, a convoqué un vigile à une petite manifestation en face du consulat colombien pendant toute la journée. Donc ça, c'est un petit aperçu des actions qu'on est en train d'entreprendre, mais aussi de dénoncer face à l'Organisation des Nations Unies l'utilisation excessive de la force par la police aussi.
Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Marcochina, Marcochina, les drapeaux sont noirs pour le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang.
Machina qui voulait chasser de l'Ukraine tous les tyrans, et entre autres les tyrans rouges comme les tyrans blancs, et comme le disait Réal Jodoin, combattre l'État capitaliste au même titre que le capitalisme d'État, et donc le capitalisme libéral au même titre que le marxisme-léninisme comme forme du capitalisme, renvoyé dos à dos. Alors, nous allons terminer l'émission Antenne Libre sur un court extrait de quelqu'un qui nous parle des exemples d'auto-organisation à travers le monde, et entre autres en Algérie et au Brésil.
Mais ça m'a inspiré au départ, au même titre que l'expérience du mouvement des sans-terre m'avait inspiré au Brésil, c'est-à-dire une forme d'organisation et une forme d'organisation politique qui peut inclure sa propre stratégie de lutte contre l'État, puis jusqu'à une certaine mesure contre le capitalisme, sans avoir besoin du maudit parti propre aux théories léninistes et autres théories
étatistes.
Et donc, qui sont des formes de lutte par l'organisation à la base de comités, d'associations qui fonctionnent selon les principes de la démocratie directe, mais dépendamment aussi de cette démocratie directe-là peut être interprétée ou vécue différemment d'un endroit à l'autre. Et donc, qui se coordonnent ensemble, mais qui crée pas un appareil auquel tout le monde se soumette. Et donc, pour moi, ça a été au départ, enfin, à peu près dans le temps des années 99-2000, ça a été pour moi des expériences. Ben, là, je parle entre autres du mouvement des sans-terre, qui m'ont aidé à pouvoir visualiser une lutte qui n'est pas partisane. Plus facilement que ce que je pouvais savoir à l'époque des anarchistes. Puis je connaissais pas encore la Révolution espagnole. mais qui, d'une certaine façon, peut s'en rapprocher, peut se rapprocher de ces expériences-là. Et par contre, je dois dire que j'ai énormément appris aussi de l'expérience kabyle de l'insurrection algérienne, en me posant des questions par la suite, en essayant de comprendre ce qui s'était réellement passé et comprendre les dynamiques intérieures, puis comprendre c'est quoi ses limites, c'est quoi les contradictions inhérentes, puis les impossibilités ou les... Et justement, dans la forme de l'auto-organisation, le contenu de cette organisation, puis les finalités de l'insurrection et des insurgés eux-mêmes, c'est là que je pense qu'il faut aller chercher un peu plus loin, parce que pour moi, effectivement, c'est pas assez de prétendre de dire « Oh, on organise la démocratie directe, puis il n'y a pas un État formellement. » Ça revient à cette idée que dont on discutait tout à l'heure, que le formel ne peut jamais compenser le réel, ce qui se passe réellement. Et donc, il y a eu, entre autres, en Algérie, les années ont passé, puis ce mouvement-là des assemblées s'est formalisé. Et encore une fois, en se formalisant, la coordination des arches, c'est comme les... un peu comme les tribus ou le groupe... c'est un peu un terme qui vient de l'époque plus traditionnelle. Donc c'est déjà une coordination de village, d'assemblée de village. Et les arches eux-mêmes, les coordinations arches sont elles-mêmes coordonnées plus largement. Et donc, cette formalisation-là du mouvement puis de l'auto-organisation kabyle a comme un peu subordonné l'auto-organisation réelle à une espèce de formalisme qui s'autonomise, puis qui à la limite peut se revirer contre le mouvement réel. Et donc, c'est pas étonnant après qu'on a vu des gens parler même en tant que délégués dans les grandes assemblées, dénoncer les émeutes, puis dire on est un mouvement pacifique, puis renier complètement le fait que c'est à cause d'émeutes qu'ils ont pu se mettre en place. Et jamais vraiment s'en prendre au capital.
En fait, est-ce que tu pourrais dire que la formalisation, c'est une des formes de la pacification?
C'est une des formes de la pacification, puis c'est une des formes de l'aliénation, au sens où, que justement, à partir du moment où est-ce que on commence à voir notre réalité plus dans la forme que dans ce qu'on est réellement, on est séparé de notre existence réelle, puis on se perd dans une représentation de nous-mêmes, puis cette représentation-là, elle s'auto-entretient, puis elle s'auto-entretient à nos dépens, puis contre nous-mêmes.
Puis elle se ferme, elle se clôture.
Ouais, puis en même temps, ça aide à comprendre. Cette critique-là aide à comprendre comment tout le monde, tout au long de l'histoire en Kabylie, se sont fait avoir par la formalisation de la lutte qu'ils ont essayé de faire. Le mouvement berbère s'est tout le temps fait avoir par des formes qu'ils créaient, qui surviraient contre ce qu'ils organisaient réellement. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, même toute une partie du mouvement berbère abandonne la forme réelle, la forme d'organisation réelle, qui n'était pas formelle nécessairement, ou qui pouvait avoir des formes, mais qui était plus ancestrales, mais qui pouvait facilement être transgressées dans leur forme traditionnelle, notamment pendant l'époque des maquis, où est-ce que, dans le temps des maquis, l'impératif de la guerre a complètement bouleversé. À ce propos, et c'est intéressant de dire Frantz Fanon, comment Frantz Fanon, qui est un penseur de l'anticolonialisme qui était présent avec le FLN pendant la guerre d'Algérie, parle de comment le fait que l'initiative de l'insurrection a été prise souvent par les jeunes, par les gens qui étaient dans vingtaine ou whatever, le rapport de pouvoir dans la famille a été renversé. C'est comme si le père ne pouvait plus avoir la même autorité sur le fils, parce que le fils était à l'avant-garde du destin de la patrie. Et même affaire, les filles, tout d'un coup, on pouvait plus les garder juste à la maison, parce que les filles, il fallait qu'elles aillent au maquis. Fait que les filles allaient se battre, les filles avaient un gun, les filles avaient un certain pouvoir, puis on pouvait plus continuer à leur chanter la même chanson de « À toi, fille, c'est pas toi qui transforme le monde, tu restes dans la cuisine. » Et donc ça a été transformé, non pas nécessairement par un certain idéalisme qui se serait développé dans le mouvement nationaliste, mais par l'impératif même de la lutte, qui a obligé à transgresser des formes traditionnelles figées. Et c'est la même affaire au niveau de la tradition à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les contes, les vêtements, toutes les représentations culturelles ont été